Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonjour tout le monde.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Mais ça va être un contre-histoire. Nouvelle formule. Je veux dire que je vais vous parler avec le ventilateur en fonction. C'est symptomatique, c'est la première fois que je fais ça en 15 ans. Alors j'espère que vous me pardonnerez. Alors j'ai reçu un mail le 2 août 90. Outre que l'Irak envahissait le Koweït, la nuit avait été aussi chaude que le jour. Une première, du moins pour moi, me rappelle m'être réveillé avec de l'herpès sur la figure. 13 ans plus tard, rebelote. Mais là, ça a duré 15 jours. Et il y a eu 15 000 morts, dont notre mère. Aujourd'hui, c'est plusieurs fois par été. Les climato-sceptiques me bouleverseront toujours. J'attends donc des jours meilleurs, c'est-à-dire plus frais, tout en sachant que ce recul ne précédera que de nouveaux sommets. L'avantage d'être une vieille peau, c'est que si Dieu me prête mort à temps, je ne verrai pas le sud de la France transformé en Sahara. Et c'était le mail désabusé que m'a envoyé ma sœur. Elle qui n'a pas d'enfant, elle a forcément raison. Nous sommes au pied du mur. Si nous, les vieux, souffrons comme tout le monde en silence, Ce n'est pas une raison pour laisser le cadeau empoisonné et brûlant à nos enfants. Nous n'avons plus qu'à organiser autrement ce monde que nous avons pourri, si nous voulons mourir tranquilles, sans leur mépris, que l'on aura bien mérité, si nous attendons sans rien faire, sous notre clim dernier cri, ou dans notre piscine. Et un autre message de mon médecin préféré. Je te déconseille de sortir après 9 heures. Oui, docteur, bien compris. Et évidemment, bien sûr que cette canicule précoce ne promet rien de mieux pour l'été calendaire. Dehors, c'est mortel. Tout à l'heure, j'ai cru que je n'arriverais pas à revenir toute seule de la boulangerie, malgré mes cannes. C'était un petit échange de mails daté du 25 juin 2026. 24 heures après, j'ai ouvert le ventilateur pour vous gribouiller ma défaite. Et des conclusions s'imposent. Il faut changer notre mode de vie et d'activité. Et pourquoi pas travailler la nuit et dormir le jour ?
Wir werden aufrecken, sagen die Künstler. Aber nein, sagen die Wurst. On va tous crever, disait l'artiste. Ah, mais non, tire les saucisses.
Problème d'horloge biologique. Ah oui. Il n'y a pas moyen de transiger avec l'horloge? Les Ford et autres pionniers du capitalisme ont bien inventé les 3-8 pour leur fortune. On pourrait peut-être réutiliser le système en le modifiant pour ne plus être des esclaves de la productivité, mais en essayant de rendre le boulot plus confortable pour tout le monde. Au lieu des 3-8, si on essayait 2 fois 5. Le Covid a rapidement multiplié le télétravail. On peut creuser la question dans tous les sens. On s'arrête et on réfléchit. On propose, on critique, on essaye, on critique, on modifie, on étudie les solutions mises en place ailleurs. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. On finira bien par trouver moins pire que de mourir de malaise dans sa bagnole, au soleil, ou étouffé devant sa télé, toute porte close. Non ? Alors, pour mettre en route la révolution thermique, il convient de voir grand. Sinon, on va au-devant d'inégalités flagrantes. Il y en a assez comme ça. Ça serait plutôt l'occasion d'en gommer, si possible. D'abord, l'industrie. Ça sera vite fait, hélas. Voyons voir. 5 jours à 6 heures de travail par poste. Alors, le poste du matin, par exemple, de 4 heures du matin à 10 heures. Ça fait un lever au plus tard, à 3 heures maxi. Ça va pas plaire à tout le monde. Et le poste du soir, de 20h à 2h du matin, ça perturberait moins notre horloge biologique. Proposition soumise à critique et aménagement, bien sûr. Si on tente un deuxième poste, peut-être on pourrait le programmer de 5 à 10 heures, avec le temps de travail réduit pour un salaire identique. Ou de 5h à 11h, enfin je sais pas moi, aidez-moi.
Je sais plus jouer, disait l'enfant. Tiens, voilà 5 francs, dirent les parents. On veut faire l'amour, dirent les enfants. Chut, j'appelle Royer, dirent les braves gens.
est un kaffer, est un cognet, petit rappel historique. Petit changement, longue histoire, en 1784, Benjamin Franklin évoque pour la première fois la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie. Cette idée n'est pas très populaire, à une époque où la société est encore très largement agricole, et où l'heure utile, c'est celle du soleil, qui varie de 50 minutes de l'est à l'ouest de la France. Mais un siècle plus tard, le développement des transports ferroviaires va nécessiter une unification de l'heure sur l'ensemble du territoire français. D'autant que le télégraphe électrique vient d'être créé. En 1891, l'heure de Paris devient l'heure nationale, valable sur toute l'année. Le même processus se produit dans différents pays du monde. L'Allemagne instaure ce changement d'heure le 30 avril 1916, le Royaume-Uni le 21 mai 1916. En France, l'introduction d'une heure d'été est proposée en 1916, votée en 1917, tandis que les États-Unis vont adopter le changement d'heure en 1918. Ce système va subsister en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'avancée des troupes allemandes dans le nord de la France va instaurer l'heure allemande dans la partie occupée avec 60 minutes de différence avec la zone libre au sud de la ligne de démarcation. Le Troisième Reich avait trouvé l'astuce pour faire travailler les pays occupés 2 heures de plus que le soleil toute l'année durant. Dixit ma maman. Le fonctionnement de la SNCF justifiait ces aménagements avant et après l'occupation totale de la France, notamment pour les écarts des heures et les dates de changement d'heure. À la fin de la guerre, ce sera le tour du gouvernement provisoire de la République française d'adapter cette pratique. En août 1945, un nouveau décret rétablit en 2 étapes l'heure d'hiver traditionnelle, avec un retard d'une heure, le 18 septembre 1945. La France reste à cette époque à l'heure d'hiver de l'Europe centrale, qui est également l'heure d'été de l'Europe occidentale. Alors vous suivez, oui ou non?
Je veux pas savoir tuer, dit le soldat. T'étonne pas des tons, dit le général. Je sais plus penser, dit l'ouvrier. Tiens, une augmentation, dit le patron.
Méfiez-vous, ça s'arrange pas. Le 19 septembre 1975, un décret installe l'heure d'été en France. Dernière décision de changement d'heure avec application du 28 mars au 28 septembre 1976. Cette mesure, prise à la suite du choc pétrolier de 1973, avait pour but des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage en soirée. À l'origine, cette mesure devait être provisoire. Jusqu'en 1995, le passage de retour à l'heure d'hiver a lieu le dernier dimanche de septembre à 3 heures du matin. Depuis 1996, il s'effectue le dernier dimanche d'octobre et prolonge la période d'heure d'été durant une partie de l'automne. Le décalage par rapport à l'heure solaire en France est d'une heure environ en hiver et de 2 heures environ en été. Ce qui fait qu'actuellement, le soleil est à son zénith l'été à 14 heures et pas à midi. Chacun peut le vérifier en recherchant les ombres. à 14 heures en été, le soleil étant à son zénith, c'est-à-dire à 90 degrés du point d'observation. À l'heure solaire, il est alors midi. Et le soleil ne produit pas d'ombre. De là, le proverbe « chacun voit midi à sa porte », qui énonce une vérité physique, puisque si on ne voit pas sa propre ombre portée, c'est qu'il est midi solaire là où on se trouve. Et chacun voit midi à sa porte, c'est une manière pour se défendre d'avoir des opinions différentes sur tous les événements de la vie. Ce qui explique que sans montre ni smartphone, on peut à peu près deviner l'heure, et même avec certitude, s'il est 14 heures en été ou 13 heures en hiver. Comme cette recherche de l'heure précise est assez délicate, il est plus facile d'avoir une montre sur soi, et on critique les gens compliqués dans mon genre en leur reprochant de chercher midi à 14 heures. On ne trouve cette ombre parlante qu'en la cherchant, par exemple une heure avant, soit 13 heures ou plus tôt encore. Le soleil, qui se lève à l'est, est encore dans sa phase ascendante, et les arbres, les maisons et les gens qui reçoivent le soleil marquent devant eux leur ombre. C'est l'ombre portée, plus ou moins allongée selon l'heure. Car avec les heures, l'ombre portée d'un arbre ou d'une personne immobile diminue de longueur le matin, jusqu'à disparaître quand le soleil atteint son zénith. Au contraire, cette ombre s'allongera en direction de l'est tout l'après-midi, parce que par rapport à l'arbre ou au personnage qui attend son bus, le soleil a changé de côté après son zénith. L'économie est réalisée sans sacrifice ni grande douleur, quoi qu'en disent les esprits chagrins, complotistes et autres climato-sceptiques. Revenir à un horaire fixe toute l'année ne ferait que jeter l'argent par les fenêtres, sans aucun véritable avantage de confort. Le monde entier s'y est mis. Pourquoi renoncer à un tel progrès sans inconvénient ? Parce que c'était trop facile, peut-être. Mais justement, le chemin des économies vitales qui nous attend est beaucoup plus simple que ce que les politiques et financiers prétendent. Pour nous décourager et pour continuer leurs dépenses folles, leurs projets somptuaires et autres GTI, grands travaux inutiles, qu'on n'a jamais demandé et dont les premiers résultats seront le sacrifice de tant d'hectares de terres cultivées pour en faire des sols artificiels, grands facteurs de catastrophes climatiques.
Regarde la jolie queue du poireau vert.
Ça suffit, viens manger ta soupe en boîte.
Mais revenons à notre révolution thermique. Puisque l'industrie n'existe carrément plus chez nous, on pourrait ne faire qu'un poste le soir, pour éviter une lourde inégalité entre les travailleurs. Une réduction à 5 heures de travail nocturne créera des emplois nouveaux naturellement. Et dans le commerce, comment on pourrait faire ? Dans les magasins, tous les magasins, et des services comme la restauration. Pour que tout fonctionne de façon satisfaisante pour tous, consommateurs et employés. Le travail du soir peut convenir, mais il y a toujours la nécessité de remplir les magasins, réception, réassortiment, etc., avant l'arrivée des clients, et d'effectuer les tâches d'entretien après la fermeture. Ce qui veut dire travail fractionné et donc inégalité entre les travailleurs. Les horaires, encore actuellement prolongés en soirée dans les grandes surfaces, ont démontré le succès de ces changements de planning auprès du public. Pour les employés, une amélioration des transports en commun s'imposerait, condition du succès qui devrait être réalisable, étant donné l'enjeu. Et l'artisanat. Imaginons. Qui n'a pas bataillé pour trouver un artisan compétent et disponible, en particulier en urgence? Le travail artisanal exécuté au domicile du client ou dans l'atelier de l'artisan s'adaptera certainement à la révolution thermique et à ses activités nocturnes. Le problème majeur de ce secteur est le manque de professionnels en activité et les carences du système de formation. L'artisanat a souvent été déconsidéré, surtout depuis la fuite des industries hors de l'Europe, l'artisan restant le seul travailleur, les outils à la main. Il a été perçu comme un col bleu, un ouvrier, alors que son travail sur mesure n'a que peu de choses à voir par rapport à la durabilité du travail artisanal en particulier, peu de choses à voir avec les productions industrielles fragiles importées. Et puis il y a les administrations. Alors, dans l'éducation, que je connais bien, les enseignants, les élèves et les étudiants seront forcément plus attentifs, réceptifs et créatifs le soir plutôt que sous la canicule, et surtout s'ils ont préparé leur nuit de travail par une sieste réparatrice. La santé. Les hôpitaux sont depuis longtemps, sinon depuis toujours, en H24. La médecine de ville s'adaptera comme les autres secteurs. Les services d'urgence, actuellement débordés, devront évidemment être développés. Les transports. Les transports nationalisés déjà en partie en H24, les sociétés privées ont suivi ou suivent déjà le mouvement. Les transports de personnes s'adapteront sans doute automatiquement, car les voyageurs étant leur raison d'être à ces entreprises, évidemment qu'ils ne vont pas manquer l'occasion. Le fret sur rail fonctionne déjà beaucoup en nocturne, les camions étant de plus en plus remplacés par le rail par écologie et en raison des hausses du prix du gasoil. Les derniers kilomètres étant assurés par des services de messagerie en camions de taille moyenne, plus faciles à gérer que les voyages routiers internationaux. Et en ce qui concerne l'énergie, la distribution est déjà organisée à domicile pour le gaz, l'électricité en H24. Les bornes de rechargement électrique se multiplient. Les besoins augmenteront, bien sûr, avec l'éclairage nocturne. Mais sans doute les LEDs et le développement rapide des énergies renouvelables permettront d'y faire face. Mais un autre aspect du problème, moins facile à résoudre, est celui de la pollution lumineuse et de son impact sur les animaux en particulier, et sur la flore aussi, alors que l'on vient tout juste de découvrir ces nuisances spécifiques, dont on n'imagine pas un remède pour le moment. Et dans le bâtiment? Le bâtiment, la construction privée de nos villas et le BTP, bâtiments et travaux publics. Les lotissements continuent de dévorer les terres cultivables. Mais qu'il s'agisse du pavillon rêvé de chaque famille ou des immeubles collectifs, la construction d'immeubles d'habitation posera sans doute beaucoup de problèmes pour s'adapter au travail nocturne, étant donné surtout l'actuel taux terrifiant d'accidents, souvent mortels, dans cette spécialité. Et l'entretien du bâti actuel et futur pose le même problème. Question à creuser, beaucoup.
Viens caresser la feuille qui se repose.
Ne perds pas ton temps, dis la raison.
Viens faire sauter les digues et te baigner.
Va te laver les mains, dis la propreté.
Et l'eau, l'eau vitale, comment gérer l'eau? La distribution est déjà organisée en territoire métropolitain. Faudrait pas oublier les autres. Mais les territoires ultramarins montrent une scandaleuse situation en ce qui concerne l'eau potable. Il y a plein de gens dans les territoires d'outre-mer qui n'ont pas l'eau chez eux. Plein de gens. L'eau, c'est la vie. Il est vital de rationaliser l'usage de l'eau pour faire face aux canicules dévastatrices pour les nappes phréatiques et donc pour toute la population, et aux inondations consécutives aux orages sur les sols desséchés et surtout artificialisés, multipliés à tout va pour faire des parkings et des centres commerciaux. L'urgence absolue, c'est d'abord l'entretien sérieux et efficace des canalisations territoriales de tous ordres, à ne confier qu'aux acteurs locaux, contrôlés et sanctionnés par les votes citoyens, plutôt que de s'en débarrasser au profit des sociétés privées, qui doublent parfois les frais sans entretenir correctement les réseaux. C'est en effet les fuites sur les réseaux d'adduction d'eau, c'est la plus grosse source de gaspillage de l'eau en France. Cela concerne également, bien sûr, le traitement industriel des eaux usées récupérées par les services spécialisés, comme par les consommateurs. Si, si, ça existe et je vous en ai déjà parlé. Dans une proportion intéressante, ça existe. Il n'y a qu'à voir le système allemand dont on peut envier l'hygiène et ses résultats. Et on peut évoquer tout de suite le scandale des toilettes domestiques à eau potable. Oui, nous on fait pipi dans l'eau potable. Je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé, mais c'est un scandale. Les jardineries et les hypermarchés vendent déjà avec succès des récupérateurs d'eau pluviale pour arroser. On peut imaginer des récupérateurs spécifiques pour recycler ce qu'on appelle pudiquement les eaux claires domestiques, c'est-à-dire les eaux récupérées des douches et des lessives, utilisables au moins dans les toilettes et pour le lavage des sols. Et si on ne prend pas les lave-vaisselles pour des poubelles, on peut même recycler de cette manière leur eau de vaisselle. Étant donné que les toilettes sont le lieu de la plus grande consommation domestique d'eau, le problème du rationnement de l'eau domestique est d'avance déjà résolu, en appliquant ces pratiques qui ont fait leurs preuves dans les pays nordiques, et chez moi aussi, preuve sur facture. Facture d'eau divisée par deux, alors que je ne récupère pas encore les eaux de lessive. Mon rêve. Et dans le domaine culturel et sportif, comment ça peut se passer? Eh bien, la culture s'exprime déjà majoritairement la nuit, sauf les musées qui s'y mettront sans problème. Les sports se pratiquent déjà un peu la nuit. La généralisation doit être possible, sauf peut-être pour le ski, dont les pistes se raréfient à vue d'œil. Espérons que l'hérésie de la neige artificielle prendra fin. Les stades sont déjà depuis longtemps équipés pour des performances et leurs spectacles la nuit. On ne peut pas prévoir si le printemps et l'automne laisseront la montagne accessible le jour. Cette canicule de mai ne laisse rien présager de joyeux aux montagnards. Et voilà l'agriculture, secteur très difficile à adapter au travail exclusivement de nuit, puisqu'il dépend du soleil. Sauf les opérations de veillage que les vaches réservent en grande majorité la nuit. Eh oui, c'est comme ça. Les petits veaux, ils naissent la nuit. La généralisation du photovoltaïque pourrait peut-être permettre l'usage du tracteur la nuit, tant pour les moteurs que pour l'éclairage des surfaces, dans les campagnes et les forêts. Mais la production massive d'électricité par panneaux solaires concentrés sur les terres ne rencontre pas l'enthousiasme des paysans, puisque cela sacrifie des zones cultivables. L'agriculture et la pêche sont les secteurs où la révolution thermique pourra apporter de l'équité dans les niveaux de revenus. Car sans l'agriculture et la pêche, les autres citoyens et citoyennes ne mangeront pas. Et qui a essayé de produire ces légumes sait quels soins épuisants, chronophages, voire décourageants cela exige, surtout en bio. Les prix agricoles à la production vont donc monter, aussi bien pour les productions alimentaires que pour le bois, de plus en plus employé dans l'habitat, avec un grand succès pour ses qualités isolantes optimales. Une forêt en pleine santé est un allié incontournable pour freiner le réchauffement climatique par son absorption du CO2 par les feuillages. L'ONF, qui fut l'Office national des eaux et forêts, administration réduite aujourd'hui à la surveillance permanente des forêts, l'ONF donc veille d'abord sur la santé des arbres par des observations minutieuses et systématiques avec prélèvement, analyse, diagnostic et thérapie et opérations de surveillance pour lutter contre les coupes illégales, l'orpaillage clandestin terriblement polluant en Guyane, par exemple, et le commerce illicite du bois. L'ONF sait bien sûr aussi les plantations de remplacement des arbres malades ou des arbres prélevés pour la gestion rationnelle des forêts. Et on arrive au secteur des mines. Le secteur des mines semble mieux adapté à l'activité nocturne. Évidemment, le soleil ne pénètre pas dans les puits des mines. Mais la prise de conscience sur les ravages de l'extractivisme peut faire rêver de limiter et peut-être arrêter certains travaux si destructeurs et dangereux. On vit assez bien sans bijoux d'or, d'argent et de diams, etc. Mais l'électronique a révélé les usages des terres rares et de leurs trésors pour l'industrie, la médecine, la communication, la recherche. C'est un des pièges les plus redoutables de la modernité qui maintient l'esclavage et le néocolonialisme, mais dont on aura beaucoup de mal à se passer. J'arrive pas à m'imaginer sans ordinateur, et vous sans doute non plus. On peut voir l'étendue du problème dans le livre formidable d'Anna Betnik, « L'extractivisme ». Ça donne le vertige. Et une administration à laquelle on pense trop peu, c'est l'administration pénitentiaire. L'apparente pauvre de nos administrations. Elle devra être révisée et réadaptée de fond en comble pour suivre la révolution thermique, mais pas que. Les logements des détenus, l'isolation phonique et thermique, les espaces culturels, sportifs et de formation, etc. Sans quoi aucune réinsertion n'est possible. Alors si la prison ne sert pas à se réinsérer, eh bien il n'y a plus besoin de prison. Hein.
On va tous crever, disait l'artiste. J'aime pas les voitures, ça sent mauvais. N'arrête pas le progrès, dit la publicité.
La révolution thermique est donc la plus urgente et la seule vitale. Pas demain, aujourd'hui, nous sommes tous sur le même bateau. Mais comme la France ne fait rien, non seulement pour lutter, mais seulement pour s'adapter au réchauffement climatique, on peut croire que ce n'est pas possible et qu'on va tous crever, disait l'artiste. Mais pourquoi donc? Qui est responsable et pourquoi on en crève? Mais beaucoup de pays s'organisent avec des résultats encourageants. Voici quelques dépêches de l'AFP transmises par Mediapart le 9 juillet 2026. Alors, des seuils, des pauses, la journée continue. Que font les autres pays pour protéger les travailleurs de la chaleur? Du Canada à la Corée du Sud, les pouvoirs publics sont confrontés au défi d'adapter la réglementation du travail à des vagues de chaleur de plus en plus longues, intenses et fréquentes. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, étudiait en 2024 un ensemble sélectif de mesures de protection des travailleurs, alors que plus de 2,4 milliards d'entre eux, sur une main-d'œuvre mondiale de 3,4 milliards, sont exposés chaque année à une chaleur excessive. Cette organisation estime que la chaleur du travail est responsable de près de 19 000 morts par an. Alors voyons les pays intelligents les uns après les autres. Modèle espagnol, cité en exemple par le ministre français du Travail, Jean-Pierre Farandou, la législation espagnole définit depuis les années 1990 un cadre pour le travail en cas de grosse chaleur. Elle prévoit par exemple que la température dans les espaces fermés ne doit pas dépasser 27 degrés pour un travail sédentaire. Règle pas toujours respectée, notamment dans les établissements scolaires. Alors étonnez-vous que les gosses soient énervés après, hein ? Depuis 2023, la réglementation oblige aussi les employeurs à mettre en place un protocole spécial. Nous sommes toujours en Espagne, hein, là. Un protocole spécial en cas d'alerte orange et rouge émise par l'Agence météorologique nationale, comprenant la modification des horaires de travail si les autres mesures de protection ne sont pas suffisantes. Dans certaines régions et villes d'Espagne, le système de la journée continue permet de décaler les horaires pour terminer le travail au plus tard à 15 heures, dans le BTP notamment. Mais tous les travailleurs sont loin d'être concernés. Dans une étude publiée en juillet 2022 par le site InfoJobs, seuls 21% des 1026 personnes interrogées déclaraient en bénéficier en été. Depuis les inondations meurtrières à Valence en Espagne en 2024, On accorde également jusqu'à 4 jours de congé aux travailleurs si les conditions météorologiques les empêchent de se rendre sur leur lieu de travail. Et voyons maintenant comment on se protège de la canicule en Italie. Italie, plateforme de référence. En Italie, une plateforme numérique baptisée WorkClimat a été lancée pour permettre aux employeurs d'évaluer chaque jour le niveau de risque thermique auquel sont exposés leurs salariés, en prenant compte de la température, du taux d'humidité, du vent et du rayonnement du soleil. C'est ce que l'on appelle l'indice WBGT, avec 4 niveaux de risque, du vert au rouge. L'employeur pourrait ajouter l'intensité du travail, la productivité, ce qu'on appelle. Expérimenté depuis 2023 en Italie, cet outil est désormais utilisé dans certaines régions pour imposer des mesures contraignantes. Eh oui, en Lombardie, quand la plateforme indique un risque élevé, l'activité est interdite aux heures les plus chaudes dans le bâtiment, dans l'extraction en carrière et dans l'agriculture, explique l'Observatoire des risques professionnels en Europe, Eurogip. Et voyons voir en Corée du Sud. La Corée du Sud impose la pause. Depuis juillet 2025, en Corée du Sud, la loi prévoit que lorsque la température ressentie, en prenant en compte le taux d'humidité, atteint ou dépasse 33 degrés, les employeurs doivent accorder 20 minutes de pause toutes les 2 heures ou 10 minutes toutes les heures. Si la nature du travail n'est pas compatible avec des pauses à intervalles réguliers, l'employeur doit fournir aux salariés des équipements lui permettant de se rafraîchir, comme les climatiseurs individuels. Cette approche des temps de pause se retrouve en Belgique, dans certaines provinces canadiennes, à Chypre et dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis, note Anarita Piazza, chargée d'études chez Eurogip. Et au Qatar. Au Qatar, il y a des secteurs à part. Au Qatar, où le travail doit s'arrêter, si l'indice WGT, qui enregistre la température, le taux d'humidité, le vent et le rayonnement du soleil, si cet indice WBGT dépasse 32,1 degrés, les mesures visant à protéger les travailleurs du stress thermique ne s'appliquent pas aux activités des entreprises qui mènent des projets dans les secteurs pétroliers et gaziers, souligne un rapport d'experts publié par l'OIT en 2026. Alors je répète parce que ça c'est vraiment dément. Les mesures visant à protéger les travailleurs du stress thermique ne s'applique pas aux activités des entreprises qui mènent des projets dans les secteurs pétroliers et gaziers. Au Qatar. Dans plusieurs pays de cette région du monde très exposés à la chaleur, Qatar, Oman, Koweït, des interdictions de travailler en extérieur pendant certaines plages horaires sont en revanche imposées à des dates prédéfinies, indépendamment de la chaleur, rapporte l'Organisation internationale du travail. À Oman, le travail en extérieur est ainsi interdit de 12h30 à 15h30 du 1er juin au 31 août.
L'artiste.
Oh, mais oui, dire les saucisses.
Seulement, c'est parti.
Aïe, 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 aïe.
Et voici nos dernières informations. Nous apprenons de sources bien informées que la petite Sophie, qui avait été kidnappée par des individus reconnus comme des Nord-Africains, a été retrouvée au grand soupir de ses parents. La France respire.
Et voici une autre dépêche AFP, Agence France-Presse, datée du 9 juillet 2026. La canicule s'intensifie avec un passage en vigilance rouge prévu vendredi pour 9 départements de l'Ouest et elle va persister au moins jusqu'au 14 juillet dans tout le pays où les feux de végétation se multiplient. Ouais, ben, on peut dire que ça continue. Hein. Météo France place les pays de la Loire et 4 départements voisins en alerte rouge à partir de vendredi midi et 76 départements en orange contre 72 jeudi. Seuls la Corse, la Côte d'Azur et le nord de la France seront épargnés, ainsi que quelques départements de montagne. Le nord de la France n'a pas été si épargné que ça, il me semble. Jeudi après-midi, la chaleur était particulièrement intense dans le sud-ouest, oh que oui, et l'ouest, avec 40 à Perpignan, Narbonne, Béziers, 38 à Albi et Nantes, et encore 36 à Rennes. Et à Toulouse, alors, il a fait 38, selon des relevés à 15h30, après une nuit peu reposante, 38 dans les Pyrénées-Orientales et 27 à Nîmes. Il s'agit du troisième épisode caniculaire en moins de 2 mois et Météo France estime qu'il devra persister jusqu'au 14 juillet, au moins. C'était prudent de dire au moins. Comme Josy Rongione, 82 ans, il vaut donc mieux se lever tôt pour bouger les jambes. Marcher une fois ou deux par semaine sur les bords du Rhône, à Lyon, c'est agréable, ça permet de ne pas être confiné en permanence. Même s'il commence à s'habituer aux grosses chaleurs, Léo, un Lyonnais de 27 ans, souffre quand il n'y a pas d'air et confie sa crainte que ça dure. Les organismes sont souvent mis à rude épreuve. Et l'Association des médecins urgentistes de France a réclamé l'annulation immédiate ou le report des compétitions sportives exigeantes prévues en extérieur afin de préserver le système de soins. Le triathlon de Versailles, prévu dimanche, a déjà été annulé. Le Premier ministre présidera vendredi matin une cellule interministérielle de crise consacrée à cette nouvelle canicule. Le Haut Conseil pour le climat a alerté jeudi la France sur ses politiques insuffisantes, aussi bien en matière de décarbonation que d'adaptation. Qui dit canicule dit sécheresse, qui dit sécheresse dit incendie. Preuve immédiate de l'état de sécheresse des terrains. Le front des incendies reste actif, alimenté aussi par le vent qui ne faiblit pas. Au-dessus de Dié, dans la Drôme, dans une zone escarpée et inhabitée, un feu a parcouru 3000 hectares en une semaine. 4 canadaires se sont joints vendredi aux quelques 450 personnels déployés au sol, selon la préfecture. Pour certains territoires, les sinistres sont inédits. L'Indre fait face à l'un des plus grands incendies de son histoire, selon la préfète, avec 700 hectares détruits. Et dans la Haute-Vienne, en situation de sécheresse sévère, 165 hectares de végétation ont été ravagés par le plus important incendie jamais recensé dans le département, selon les pompiers.
4-2, c'est le score du match à la mi-temps opposant l'équipe de Marseille à l'équipe d'Angoulême. Bravo, l'OM. Une information tout à fait anodine. Quelques Nord-Africains ont été retrouvés sur le caniveau. L'hypothèse d'un suicide n'est pas écartée. Le porte-parole du gouvernement communique. Le SMIG augmenté de 0,0001% à compter du 1er avril 1979.
Plus de 325 départs de feu ont été recensés sur l'ensemble du territoire. Mercredi, a souligné Laurent Nunez sur X. Le ministre de l'Intérieur appelle à la solidarité des employeurs pour libérer les sapeurs-pompiers volontaires et faciliter leur mobilisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que on nous propose, on fait le tour des mesures qui sont prises en France, mais aucune de ces mesures n'est gouvernementale. Débrouillez-vous, ça veut dire. L'Hérault, où la température est montée mercredi jusqu'à 43 à Moulès et Beautzel, a enregistré 30 départs de feu par jour depuis samedi, selon la préfète Chantal Mauchet. Un feu en cours à Carlancas et Levas a déjà parcouru 400 hectares. En revanche, dans les Pyrénées-Orientales, où le feu a parcouru près de 5000 hectares, la situation s'améliore de jour en jour, a indiqué jeudi la préfecture. Et les habitants de 9 communes évacuées pourront réintégrer leur logement à partir de 18 heures. Les alertes à la sécheresse se multiplient et les restrictions de l'usage de l'eau sont mises en place. Le préfet du Rhône a émis l'alerte pour l'ensemble des cours d'eau du département et fortement restreint les possibilités d'arrosage, d'irrigation de cultures hors maraîchage ou encore de lavage de voitures ou de façades. Un réacteur de la centrale nucléaire de Golfech a été arrêté en raison de la canicule afin de respecter les limites d'échauffement de l'eau du fleuve Garonne. Oui, mais on ne parle pas de l'arrêt quasiment caché depuis des semaines du premier réacteur de Golfech. Eh oui, Golfech est arrêté entièrement depuis plusieurs semaines. Préventivement, deux villages de Côte d'Or qui partagent leurs ressources en eau, Quincy-le-Vicomte et Quincérotte, ont décidé d'acheminer par citerne de l'eau potable car le réservoir était passé en dessous des 50% de sa capacité, explique le maire de Quincy.
2, 6, 12. Si vous avez joué ce tiercé dans l'ordre, vous gagnez 16 000 anciens francs et dans le désordre, 4 000 anciens francs. Et voici nos toutes dernières informations dans le cadre du développement industriel, humain, technique de la région Alsace-Lorraine, bassin Méditerranée, Sud, Sud-Ouest, Sud-Alpes, Bretagne, Normandie, Flandre. Porte-parole du gouvernement annonce la construction de prochaines centrales thermonucléaires.
Voilà, c'était la dernière dépêche de l'AFP. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de bien résister à ces temps mauvais. Et si vous avez des idées, eh ben vous pouvez les envoyer à Contre-Histoire. Hein. Un petit mot dans la boîte à lettres de Canal Sud. Ça nous vaudra de nouvelles émissions. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre patience aussi, parce que je n'ai pas été forcément très claire tout le temps. Il faut dire que le sujet était complexe et grave, gravissime. Merci à tous et à bientôt. La semaine prochaine, je l'espère.